Lundi 14 juillet 2008. La malédiction du Jarl. Chapitre 57. 100 familles. 5h45, la bouille. Le soleil se levait doucement sur le méandre de la bouille, commençant à agacer la cime boisée des falaises de la Londe. Plein est, le terminal conteneur de l'avant-port de Rouen se nimbait d'une clarté orangée. Vu de la bouille, la lumière du matin sur les centaines de conteneurs empilés dans un désordre apparent donnait l'image d'immenses jouets de construction qu'un enfant de géant aurait abandonnés avant de s'endormir. L'angle serré du méandre ne permettait pas de voir plus loin que quelques kilomètres, mais chacun savait que d'ici quelques heures, les grands voiliers surgiraient, juste devant la colonne Napoléon qui commandait l'entrée du port, sur la rive droite. Le petit village de la Bouille se réveillait à peine. Les rideaux de fer des galeries de peinture, dans les petites rues pavées du village, étaient encore baissés. Les chaises et tables des terrasses des restaurants cossus, face à la Seine, étaient toujours enchaînées. Les rideaux des fenêtres des hôtels, avec pleine vue sur le fleuve, étaient encore tirés. Les amoureux pouvaient encore profiter de quelques heures d'intimité avant d'ouvrir leurs fenêtres sur le spectacle romantique de la parade en Seine. La torpeur du village contrastait avec l'agitation du bord de Seine, à l'entrée du village, près du bac. Le grand parking de terre et le terrain de football avaient été en quelques heures transformés en quartier général d'une gigantesque opération scientifico-policière. La moitié du parking était occupée par des fourgons de pompiers, de CRS ou de clubs de plongée sous-marine. Au plus près du fleuve, un linéaire de plus de 20 mètres de bureaux, bungalows, sanitaires et baraques de chantier avait été installé dans la nuit. Sous le regard des forces de l'ordre, des dizaines de plongeurs enfilaient des combinaisons de néoprène dans toutes les nuances fluorescentes possibles. Sans les palmes et les lourdes bouteilles d'oxygène, la scène aurait pu ressembler au départ matinal d'un triathlon. 113 plongeurs exactement. L'inspectrice Colette Cadineau avait été chargée de constituer la liste, d'examiner chaque nom, de collecter les informations les plus précises. Il ne devait y avoir aucune possibilité de passer entre les mailles serrées du filet tendu. À l'exception des riverains, aucun touriste ne pouvait avoir accès au site. Le cordon sanitaire avait été étendu à plusieurs kilomètres, bloquant les principales routes d'accès à la Bouille par Moulineaux, Saint-Ouen-de-Touberville, Caumont. Pourtant, dans les villages alentours, les forces de l'ordre, malgré l'heure matinale, peinaient à repousser les visiteurs, doublement attirés par la parade des voiliers et la machine médiatique qui s'était emballée depuis hier. Un fabuleux trésor avait été localisé au fond de la Seine, au large de la Bouille. Le dispositif devait être suffisamment dissuasif pour éloigner les curieux, mais suffisamment lâche, sur près de 10 kilomètres, pour permettre à un visiteur particulièrement curieux et discret de s'approcher, notamment par les falaises et la forêt de la Londe. C'était le pari de cette prodigieuse souricière. Attirer Morten Nordrak au plus près des chercheurs d'or, le laisser entrer et refermer le piège sur lui. Un réseau de surveillance de la zone, aussi invisible que systématique, avait été mis en place. Sur la rive droite de la Seine, sous les ordres de l'inspecteur Ovid Stepanou, des dizaines de télescopes et téléobjectifs étaient braqués sur la rive d'en face, guettant le moindre mouvement suspect dans un rayon de 10 kilomètres. Tous les points hauts de Sahure, églises, moulins ou châteaux de Marbeuf, Trémoville et Socance avaient été mobilisés. Un dispositif plus ambitieux encore était mis en place rive droite. Outre les visibles forces de l'ordre dans les villages et sur les routes, des services spéciaux d'intervention étaient postés dans des lieux stratégiques, pavillons isolés, fermes, cabanes, prêts à bondir au moindre signal. L'inspecteur Jérémy Mézinguel, chargé de la coordination dans la forêt de la Londe, pouvait également compter sur des tireurs d'élite positionnés sur quelques promontoires, dont le donjon en ruine du château Robert le Diable. Sur la berge, le commissaire Gustave Paturel ne quittait pas son talkie-walkie. Il avait passé la journée d'hier à obtenir toutes les autorisations administratives, à réquisitionner des moyens et des hommes. Dans la plus totale précipitation, il lui avait fallu convaincre des hauts fonctionnaires peu motivés qu'il était vital de lancer cette opération avant le départ des grands voiliers. Le plus grand pari de sa carrière. Il n'était pas plus de 10 à savoir que toute cette opération n'était qu'une mise en scène, destinée à piéger l'ennemi public numéro 1. Lui, Malina Brouzet et Christian de Culteau, le préfet, le ministre de l'Intérieur et sans doute une poignée d'autres hauts fonctionnaires. Debout, à côté du commissaire Paturel, Malina Brouzet n'en menait pas large non plus. Elle était à l'origine de toute cette mascarade, c'était son idée. Maintenant, devant l'ampleur des moyens mis en place, elle doutait. Nordrak mordrait-il à l'hameçon? Le tigre allait-il sortir? Était-il déjà là, quelque part, à les observer? Devant elle, des dizaines de plongeurs passaient, presque tous jeunes et sportifs, excités à l'idée de cette chasse au trésor. Maline s'en voulait également pour cela, mentir à ces dizaines de passionnés. Elle imaginait leur déception dans quelques heures, quand on leur annoncerait qu'ils avaient participé malgré eux à un canular, qu'on les avait manipulés, qu'on s'était servi d'eux pour attirer un tueur. Même Olivier Levasseur n'était pas au courant. Christian de Culteau avait été très ferme. Il fallait mettre le moins de personnes possible dans la confidence. Le chargé de relations presse croyait donc sincèrement qu'un trésor dormait au fond de la Seine, indiqué par les plans de Ramphastos, et avait fait hier une remarquable conférence dans ce sens devant des journalistes du monde entier. Quelle allait être sa réaction lorsqu'il allait découvrir lui aussi, dans quelques heures, que Maline ne lui avait fait aucune confidence, même sur l'oreiller de soie, qu'elle l'avait trompé, comme les autres, car le bel Olivier n'était pas le moins excité des chasseurs de trésors. Il avait tenu à participer lui-même aux opérations de plongée. Il était un plongeur expérimenté. Il avait exploré toutes les mers du monde, notamment son océan Indien natal. Il avait fini par lui avouer, sous les draps, que lorsqu'il était arrivé en métropole pour lancer sa carrière de communicant international, il avait troqué son imprononçable nom d'origine malgache pour un patronyme plus français. Le nom de ce pirate enterré à quelques kilomètres de chez lui, Olivier Levasseur, lui avait semblé pouvoir faire parfaitement l'affaire. Pour l'heure, son bel amant avait donc moulé son corps dans une combinaison de plongée et rêvait sans doute d'être le premier à crier « J'ai trouvé !» Il n'y avait pourtant rien à trouver, sauf le tigre. Le commissaire glissa un regard impatient à Maline, coupant son toki-woki. « J'espère qu'il va se pointer, le serial killer, parce que tout le merdier qu'on va trouver au fond de la Seine, on va avoir du mal à faire passer ça pour un trésor. » 5h45. Un coup de sifflet lança l'exploration. Par groupe de 8, sous les ordres du brigadier responsable habituellement des opérations de sauvetage en Seine, les plongeurs entrèrent dans l'eau grise du fleuve. Des rotations précises entre plongeurs et un quadrillage strict étaient programmées. Si Nordrak avait infiltré un complice, rien ne devait lui laisser penser que l'opération n'était pas crédible. 6h. Une deuxième rotation de plongeurs s'enfonça dans le fleuve. Le toki-woki du commissaire grésillait dans le vide. Maline entendait simplement quelques échanges brefs entre Paturel, Stepanou et Mézinguel. Toujours rien? Toujours rien. 6h15. Tous les plongeurs avaient au moins une fois exploré le fond vaseux de la Seine, mais tous semblaient disposés à y retourner avec une motivation qui rendait Maline de plus en plus mal à l'aise. Nordrak n'allait pas venir. Il n'était peut-être déjà même plus dans la région. Il y avait bien eu, depuis le début de l'opération, quelques fausses alertes, des chasseurs de trésors en herbe qui, malgré les interdictions, avaient voulu s'approcher. C'était le but. La souricière ne devait pas être hermétique. Elle devait laisser croire à Morten Nordrak qu'il avait sa chance. 6h20. Maline ne tenait plus. Cette mascarade était grotesque. Elle évitait de regarder le commissaire Paturel. Ils avaient joué gros, trop gros. 6h22. Gustave Paturel garda l'air le plus naturel possible lorsqu'il monta le toki-woki jusqu'à son oreille.
« Il est là !»
annonça simplement l'inspecteur Ovid Stepanou.
« Juste au-dessus de vous, dans la forêt de la Londe. Coordonnées Lambert 2, étendue 2484,3, 498,7. Altitude 66 mètres. Ne vous retournez pas, ils vous observent.
Le commissaire savait que les logiciels de GPS et les modèles numériques de terrain permettaient de donner une localisation extrêmement précise aux forces d'intervention dissimulées dans la forêt de la Londe. Paturel fit un effort surhumain pour ne rien laisser paraître de son excitation.
« Ovid, tu me confirmes l'identification ?»
5 longues secondes s'écoulèrent. Ne pas se retourner, rester naturel.
« Identification confirmée. »
fit enfin la voix de l'inspecteur.
« Mézinguel !» enchaîna le commissaire. « Interception !»« Interception !»
hurla l'inspecteur Jérémy Mézinguel dans son talkie-walkie.
2484,3, 498,7, 66 mètres.
Mézinguel savait qu'il avait des hommes postés à moins de 50 mètres en contrebas de la position signalée. De son poste d'observation, en haut du château du Rouvray, au bout de ses jumelles, Jérémy Mézinguel pouvait parfaitement suivre la scène. Avec les coordonnées GPS et MNT, il put repérer lui aussi Morton Nordrak. Le fugitif s'était rasé le crâne, portait les habits discrets d'un touriste égaré, mais c'était lui. Le groupe d'intervention, 9 hommes, bondit de la cabane 50 mètres sous la cage de Nordrak. Immédiatement, le Norvégien les repéra. Le fugitif avait peu d'avance, mais il se mit à courir avec une rage désespérée, remontant la pente en direction des ruines de Robert le Diable. Les 9 policiers se précipitèrent derrière lui, moins de 30 mètres en contrebas désormais. Mézinguel savait que Morton Nordrak n'avait aucune chance. La forêt était bouclée. Quel que soit l'endroit où Nordrak se dirigerait, il tomberait dans la tenaille. En plus, à n'importe quel instant, d'un seul mot, feu, il pouvait le faire abattre par un des tireurs d'élite. Nordrak courait d'ailleurs en direction de celui posté en haut du donjon de Robert le Diable, pile dans sa ligne de mire. Mais il avait ordre de le prendre vivant, si possible. La pente de la falaise de la Londe était excessivement raide. Nordrak s'essoufflait et ralentissait. Les policiers seraient sur lui d'une seconde à l'autre. Les jumelles de Jérémy Mézinguel balayaient la forêt. « Merde !» hurla soudain l'inspecteur. Un groupe de 4 marcheurs descendait la falaise en traversant la forêt, moins de 40 mètres au-dessus de Nordrak. Une famille trop curieuse passait entre les mailles de la police. Une mère, 2 enfants de moins de 10 ans... un homme portant une glacière quelques mètres derrière eux. L'angoisse de la bavure fit frémir d'horreur l'inspecteur stagiaire. En un instant, il imagina le carnage. Quelle décision prendre ? Ses jumelles pénétraient dans la chair de son visage. Le premier policier sous Nordrak était encore à 10 mètres de lui. « Encore un effort, vite, vous le tenez !» Les jumelles remontèrent entre les arbres. Au-dessus, le gamin de 6 ans prenait de l'avance sur sa sœur et dévalait le sentier en sautillant. Moins de 30 mètres au-dessus de Nordrak. Bordel ! Plaquez-moi ce tueur au sol ! Le matelot norvégien souffla une nouvelle fois, épuisé par sa course, s'appuyant à un arbre. Il abandonnait la partie ? On le tenait ! Les collègues seraient les premiers sur lui ! Les jumelles de Mézinguel se figèrent. Sortant de la poche du pantalon de Nordrak, il distingua nettement le canon d'une arme. Le métal brilla dans le soleil naissant. Les collègues avaient-ils pu repérer l'arme ? Non, impossible. Le gamin était à 20 mètres au-dessus de lui, terrain dégagé, cible idéale. Bordel ! Feu ! Hurla Mézinguel dans son talkie-walkie au tireur d'élite juché sur le donjon en ruine du château Robert le Diable. Le cœur de Morton Nordrak explosa dans l'instant qui suivit son ordre. Le gosse de 6 ans s'arrêta brusquement, à 4 mètres du corps de l'homme qui venait de s'effondrer devant lui dans une mare de sang. La longue vue de Nordrak, que Mézinguel avait pris pour le canon d'une arme, roula quelques mètres jusqu'au pied du premier agent du groupe d'intervention, un peu en contrebas. 2 autres agents s'occupèrent d'éloigner les 2 enfants du sinistre spectacle. Un 4e se pencha sur le corps sans vie, dégrafa la chemise et dénuda l'épaule. 5 tatouages, dont un tigre. Il confirma. C'était bien Nordrak. Il n'était pas armé. Le commissaire Paturel reçut la confirmation dans les instants qui suivirent. Maline et l'inspectrice Cadino, debout à côté de Paturel, furent les premières informées. « C'est fini, » dit sobrement Paturel.
Ils ont abattu Morton Nordrak près des ruines de Robert le Diable. »
Tous ressentirent un sentiment profond de soulagement, mais aussi une forme de vacuité qui contrastait avec l'agitation autour d'eux. Les fouilles continuaient avec la même intensité, inutiles désormais.
« Bravo, Maline, » fit doucement Paturel. « C'était votre idée, on l'a coincée. Au dernier moment, quelques heures avant la parade, vous êtes une fée. Je vais la voir, mon pique-nique, au bord de la Seine avec mes gosses. »
« Je vous l'avais promis, » fit Maline d'une voix douce.
L'enthousiasme du commissaire n'était pourtant pas démonstratif. L'inspectrice Cadino le remarqua.
« Vous avez l'air presque déçu, commissaire. »«
Déçu ? Non, c'est la pression qui retombe. J'aurais préféré prendre Morton Nordrak vivant aussi. Mais on aura le temps de voir tout ça par la suite. L'ennemi public numéro un est hors d'état de nuire. C'est le principal. »
Une clameur leur fit lever les yeux. Le bac revenait de Sahure et allait accoster à la bouille. À son bord, l'inspecteur Ovid Stepanou et une trentaine d'agents de police se congratulaient dans une liesse communicative. Ils posèrent le pied à la bouille comme les libérateurs d'un pays occupé.
« On l'a eu !» hurlaient des hommes enthousiastes. « Ça a fonctionné ! On a gagné !»
Le commissaire monta à sa bouche un porte-voix et ordonna.
« C'est bon, on arrête, on remballe. Place à la parade !»
La surprise des plongeurs laissa bientôt place à la stupeur. Le bouche à oreille fonctionna. Un à un, ils se rendaient compte qu'il n'y avait aucun trésor dans le fond sableux de la Seine, qu'ils avaient simplement été utilisés comme leurre. Leur déception était tempérée par l'information du jour. Le fugitif avait été abattu dans la forêt de la Londe. Un peu grâce à eux. Il régnait une joyeuse cacophonie sur les rives de la Seine, entre le bac qui clapotait, les plongeurs qui s'extirpaient de leur combinaison en discutant avec leurs voisins à la recherche de nouvelles fiables, les policiers qui avaient baissé la garde. Maline se sentait étrangement indifférente à ces démonstrations festives. Elle ressentait avant tout un grand vide, sans doute le poids des quatre dernières nuits sans sommeil, de la tension nerveuse brusquement retombée, trop brusquement. Tout s'était parfaitement déroulé pourtant, comme prévu. Tous les protagonistes de ce drame étaient morts, la police avait gagné, l'affaire était bouclée. Alors, d'où venait ce sentiment d'inachevé, cette impression de manque, de doute? Elle était sans doute trop fatiguée pour apprécier ce dénouement heureux. Elle en prendrait la pleine mesure dans les heures, dans les jours qui allaient suivre. Cette sordide affaire était terminée, il fallait qu'elle la sorte de sa tête. Après tout, ce n'était pas difficile.
Un souffle d'air chassa les derniers nuages gris de son esprit. Olivier Levasseur sortait à son tour de l'eau trouble du fleuve. Il avait ouvert sa combinaison qui retombait sur ses cuisses comme une jupe. Torse nu, ruisselant, les cheveux collés, Maline frissonna, le trouvant aussi désirable que le jour où elle l'avait vu pour la première fois, vêtu d'une simple serviette de bain. Le réunionnais lui lança un grand sourire et vint la rejoindre.
« Alors, petite cachotière, il paraît que l'on devait servir de petit déjeuner pour le tigre et tu ne m'as rien dit? Tu m'as laissé m'enflammer comme un gamin sur cette histoire de trésor ?»
Maline rougit. Olivier ne lui en voulait visiblement pas. Il devait être, lui aussi, rassuré par l'annonce de la mort de Morton Nordrak. Le dernier danger pour l'armada était écarté. Tout rentrait dans l'ordre, juste à temps. Maline passa une main amoureuse dans le bas du dos d'Olivier.
« Tu n'as rien compris. J'ai monté tout ce stratagème uniquement pour te voir sortir torse nu de la Seine et enfiler tes attributs dans une combinaison moulante. »
Olivier lui rendit sa caresse.
« Je comprends, petite coquine, mais alors que tu peux m'avoir pour toi toute seule, tu avais besoin d'une centaine de plongeurs pour ça ?»
Maline fut prise à son propre piège. Olivier continua sur le ton de la plaisanterie.
« Tu n'as pas dû t'embêter pendant que j'étais sous l'eau, ce va-et-vient incessant d'hommes dans leur combinaison moulante. »«
Toi non plus, » répondit Maline en cherchant une réplique, tout en accentuant sa caresse. « Il n'y a pas que des plongeurs, je te signale. Il y a aussi quelques jolies petites plongeuses. Tu n'as pas dû t'embêter sous l'eau. »«
Tu parles, sous l'eau grise de la Seine, et j'étais occupé à chercher ta saleté de trésor. »«
Menteur !» Elle pinça doucement la peau tendre et cuivrée. Olivier Levasseur jeta un regard curieux aux quelques plongeuses qui sortaient de l'eau, rangeaient le matériel ou se séchaient. Certaines avaient roulé leur combinaison sur leur ventre plat, affichant simplement le haut d'un bikini sur leur peau bronzée. D'autres, adeptes du monokini, ouvraient simplement la fermeture éclair de leur combinaison jusqu'à mi-nombril. Les yeux du Réunionnais s'arrêtèrent pourtant sur une fille en particulier. « Remarque, maintenant que tu me le dis... » Maline pinça à nouveau, plus fort. « Où ça ?» Le regard provocateur d'Olivier s'orienta vers une silhouette qui leur tournait le dos, occupée à s'extraire de sa combinaison, près d'un bungalow de chantier.
« Aïe ! La fille, là-bas !»« Laquelle que je la tue ?»« Aïe ! La fille, près du bungalow !»
Tu ne peux pas la manquer. C'est pas banal, elle est en train d'enfiler un bonnet.
Maline la repéra enfin. Une fille aux longs cheveux blonds, sans doute par crainte du léger vent frais du matin, cherchait à dissimuler ses cheveux dans un étonnant bonnet de laine écrue à fleurs mauves, visiblement un peu petit pour elle.
Beau petit cul, ajouta Olivier.
Il devait avoir un côté sadomaso, finalement. Il devait aimer se faire pincer.
Maline ne se priva pas. Olivier Levasseur grimaça pour la forme, éclata de rire et regarda ailleurs.
Maline, elle, ne pouvait détourner son regard. Ce n'était pas de la jalousie, cela n'avait rien à voir. C'était cette ridicule réflexion, beau petit cul. Elle l'avait déjà entendue dans un autre contexte il n'y a pas si longtemps. Maline fixa le corps effectivement superbe de la fille, même si elle ne voyait d'elle que le dos. Un signal d'alarme résonnait en elle. Une sirène interne intimant à toutes les synapses de son cerveau de se connecter, comme si toutes les pièces du puzzle des événements des derniers jours avaient été éparpillées par terre et qu'il fallait qu'elle les emboîte à nouveau, dans l'instant, autrement. La fille tourna son visage de trois quarts. Maline faillit défaillir. Toutes ses synapses se connectèrent en même temps, faisant exploser la vérité sous son crâne. « Mon Dieu !» C'était comme si un rideau s'était ouvert devant ses yeux, dévoilant une nouvelle scène invraisemblable et pourtant évidente. Ils avaient été trompés, tous, depuis le début. Le profiler Joe Roblin et ses déductions flamboyantes n'avaient été qu'un pantin aux mains d'un marionnettiste démoniaque. Ils s'étaient fait manipuler comme un gamin. Il y a quelques minutes, ils avaient abattu un innocent. Morton Nordrak n'avait jamais tué personne. Le véritable tueur était vivant, libre et puissant, plus que jamais. Désormais, Maline savait qui il était.